Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Ruba Gazal de Québec solidaire est avec nous pour commenter la volonté du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, de forcer les grandes plateformes numériques à mettre en avant les œuvres québécoises. Elle commente aussi cette querelle des féminismes intersectoriels et universalistes, querelle qui a éclaté la semaine passée à l'Assemblée nationale. Elle déplore le silence de la ministre Martine Biron. Mais d'abord, on discute d'une conférence qui aura lieu ce soir à Montréal, mais aussi sur une plateforme numérique.
Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Appliquer la loi 101 au cégep est une idée controversée mais forte, soutenue massivement par les professeurs de cégep du Québec, mais qui a été rejetée publiquement par le nouveau ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Ce soir, les intellectuels pour la souveraineté organisent une soirée débat sur le sujet intitulé « Déclin du français, repenser en profondeur le rôle des cégeps ». Et pour en parler avec moi, il y a l'organisatrice et animatrice de ce débat, Aïcha Van Doon. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Et deux des quatre participants, Georges-Rémy Fortin et Marie-Lou Bouchard. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes respectivement du cégep de l'Assomption, de Bois-de-Boulogne et de Rosemont. Pourquoi revenir avec cette idée, Aïcha, puisque justement le ministre a déjà refermé la porte à l'application de la loi 101 au cégep?
Oui, alors ça nous paraît paradoxal parce que d'une part, le ministre Roberge, le nouveau ministre de la langue française, en conférence de presse, est allé avec grande conviction exprimer le fait qu'il n'excluait rien pour valoriser la langue française, qu'il voulait passer de la défensive à l'offensive. Mais à la fin de la conférence de presse, quand un journaliste a posé la question si la porte était ouverte à l'application de la loi 101 au collégial, eh bien, il a répondu par la négative de façon assez forte. Donc, c'est paradoxal que le gouvernement lance un grand chantier sur l'avenir du français, qui culminera par une consultation publique. On dit qu'on veut consulter la société civile. Et d'autre part, on ne semble pas entendre les profs de cégep qui, à travers un vaste mouvement historique, se sont positionnés en faveur de l'extension de la loi 101 au cégep, dans 41 syndicats de cégep sur 48 cégeps.
Ben oui, comment vous expliquez ça, Aïcha, qu'il n'y ait aucun parti politique à part le Parti québécois qui ait repris cette idée-là?
C'est difficile à comprendre, honnêtement, notamment du point de vue de Québec solidaire. On sait que les anciens d'Option nationale, notamment Paul Zanetti, étaient favorables. Ruba Gazal, on sent qu'elle aurait envie d'embarquer, mais on ne comprend pas trop pourquoi c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut leur poser la question. Mais c'est certain que du côté du regroupement des professeurs pour le cégep français, qui est un mouvement non partisan, il faut comprendre que les votes qui ont été pris dans les assemblées syndicales, c'est des professeurs qui ont toutes sortes de convictions politiques qui ont voté et donc tous s'entendent malgré leurs convictions politiques différentes sur l'importance d'appliquer la loi 101 au cégep. Tous voient ça comme une des mesures les plus structurantes.
Maintenant, je vais m'adresser à Marie-Lou Bouchard. Vous, ce soir, Marie-Lou, vous allez surtout parler de la consommation médiatique des jeunes, le fait qu'on est devant des rouleaux compresseurs, évidemment, Netflix, Spotify et compagnie. Là, le ministre de la Culture même en a parlé. Vous posez la question, qui est une question qui me trouble. Quelle solution pouvons-nous envisager pour freiner les avancées de ce rouleau compresseur, Marie-Lou Bouchard?
Alors, il y a différentes solutions qu'on peut aborder. Là. Déjà, il faut arrêter de prendre la langue seulement comme un outil. Il faut absolument s'occuper de la culture, parce que c'est ça qui fait aimer la langue. Donc, il faut mettre notre culture de l'avant. Elle perd du terrain face à ces rouleaux compresseurs-là, aux superpuissances numériques là, qui prennent de plus en plus d'espace, qui ensevelissent les contenus et qui ne référencent pas nos contenus locaux, donc notre musique francophone locale et tout notre univers télévisuel là, par du terrain à cause de ça. Donc, c'est ça qu'il faut. Ben, il y a plusieurs solutions qu'on peut aborder. On peut aborder directement les solutions là, de réglementation numérique. On a vu d'ailleurs une première solution, la loi C-18, là, cette semaine, qui est sortie par le ministre Pablo Rodriguez du patrimoine canadien,
qui enfin
veut demander des redevances aux Google, Facebook de ce monde qui repique des contenus d'information, ce qui a un impact négatif majeur là, sur nos médias locaux, sur nos salles de nouvelles. Et enfin, on veut demander ça, mais ces grandes compagnies-là réagissent avec force en disant « ben parfait, nous, à ce moment-là, on va boycotter vos contenus ». Là, ils font ça comme ils ont fait ça en Australie présentement, mais on sent qu'ils vont probablement changer d'idée comme en Australie éventuellement. Mais ça fait longtemps que on demande ça. Et puis, TVA, donc, vous savez probablement, là, vous, à Cube, a coupé 240 postes récemment.
Ben oui.
Il y avait Pierre Calpelado qui disait « ben adoptons la loi C-18 rapidement ». Puis, il n'y a pas qu'au Québec qu'on la demande. Bill Rogers au Canada la demande aussi. CNN subit aussi les répercussions de ce repiquage-là d'informations parce que les Google, Facebook, etc., n'embauchent aucun journaliste, eux autres. Hein. Ils n'ont pas de dépenses au niveau de la création du contenu, mais ils empochent la plupart des revenus publicitaires, 80% des revenus publicitaires. Donc, il faut agir à ce niveau-là pour rétablir l'équité par rapport à nos médias locaux, entre autres. Mais aussi, j'ai été surprise de constater dans les annonces de M. Drainville, ministre de l'Éducation, qu'il n'y avait rien qui était fait pour promouvoir la culture à l'école. C'est ça, si on a réussi à promouvoir la culture dans les médias, alors peut-être qu'il faudrait laisser une plus grande place à nos artistes, à notre culture, à l'école. Donc, il faudrait penser à ça. J'étais surprise là, qu'il n'y a rien par rapport à ça. Là, moi, je m'attendais à ce que la culture prenne plus de place dans le milieu d'éducation, peut-être la création d'une politique culturelle. Est-ce que ce sera de la maternelle à l'université? J'ai aucune idée. Mais voilà. Puis aussi, bien évidemment, étendre la loi 101 au collégial, ça va permettre de rapatrier là, des jeunes dans la culture francophone et de rayonner sur l'ensemble de l'univers culturel par l'achat de livres manuels en français, etc.
Georges Rémy Fortin, maintenant, dites-moi, avez-vous l'impression que la culture québécoise est encore la culture de vos étudiants? Est-ce qu'ils s'intéressent encore à ce qui se passe dans nos médias, dans la littérature, le cinéma québécois? Est-ce que c'est pas devenu étranger pour eux?
Ça serait peut-être un peu fort de dire que c'est étranger pour eux, mais je pense que eux, spontanément, ils vont surtout vers la culture commerciale anglo-américaine. Et je pense que l'école publique, privée, mais le système public d'éducation est un lieu, j'irais jusqu'à dire un lieu d'immersion francophone, même pour les francophones.
Mm-hmm.
Immersion dans une culture en français. Ce qui se passe, c'est que quand nos profs de littérature au cégep lisent des romans français ou de francophonie avec nos étudiants ou du Québec, je pense qu'ils aiment ça. Ils apprennent à connaître ça, apprécier ça. De même pour des essais intellectuels dans un cours de philo. Puis je pense que c'est une façon de les réenraciner un peu en eux-mêmes jusqu'à ce
point. Ouais. Est-ce que c'était pas déjà à l'époque le cas, je veux dire le rouleau compresseur américain dans les années 80? Moi, j'écoute parfois la musique qu'on nous passe au IGA, mettons, puis c'est de la musique des années 80 en anglais, les films des années 80. Il y avait qu'est-ce qui différencie là le rouleau compresseur de l'époque avec celui d'aujourd'hui? On dirait qu'il est plus puissant que c'est librement choisi aussi.
Ben, je pense que tout le monde le sait. Je pense que c'est les réseaux sociaux. Là, on voit une panoplie de changements, d'ailleurs, psychologiques. Même l'état psychologique de nos jeunes s'est dégradé à partir de 2010. Dans les années 80, il restait la télé qui était très fédératrice. Hein.
Oui.
Puis même si la musique en anglais prenait beaucoup de place, les artistes francophones gardaient une certaine barre. Là. Puis quand on regarde les artistes francophones des années 90, il y en a plusieurs, là, des Kodak, Jean Leloup, etc.
Oui.
Et puis j'entendais récemment un spécialiste de musique québécoise dire que il y a presque plus d'artistes québécois là, qui vont chercher des bons revenus là, de 100 000 $ et plus par année. C'est devenu très, très difficile.
Mais oui, c'est ça, c'est tragique. On dirait que.
Les plateformes numériques, ouais.
Quand on suit ça, on dirait que c'est foutu.
Mm-hmm.
Est-ce que le cégep à lui-même, à lui seul, peut renverser la vapeur?
Juste pour revenir brièvement sur la culture, Pierre Lapointe lançait un cri du cœur récemment.
Ben oui.
La culture francophone va mourir. Est-ce que le cégep à lui seul peut renverser la vapeur? Non. Mais le cégep, c'est une institution importante. Hein. Pierre Fortin a bien montré comment. Il y a un progrès économique démocratique qui s'est fait par le cégep au fil des décennies qui ont suivi la création des cégeps. Ça a fonctionné au plan économique, c'est-à-dire de donner un meilleur accès aux francophones à l'université,
mm-hmm.
à des bons postes sur le marché du travail, ce qui était un but économique des cégeps. Il y a un but culturel aussi des cégeps. Puis là, ce but culturel devient encore plus important. C'est ça dont je vais parler dans ma conférence ce soir, c'est-à-dire de donner une formation générale en français. D'avoir un milieu de vie qui fait une promotion de l'engagement de ne pas juste être un travailleur, d'être un citoyen actif dans une société démocratique
mm-hmm.
francophone. Et puis, ben, c'est 20 000 étudiants qui, francophones et allophones qui sont dans les cégeps anglais, de les rapatrier dans les cégeps français, ça ne va pas tout changer, mais c'est un grand pas dans la bonne direction.
Il y a un prof d'un cégep anglophone qui me disait, il est francophone lui-même, mais il disait, j'enseigne actuellement en anglais, mais avec la loi 96, je vais enseigner en français. Je pense bien que je vais être obligé d'enseigner qu'en français. Est-ce que la loi 96 a des effets qu'on a pu, des effets insoupçonnés? Parce qu'on a toujours dit, elle n'applique pas la loi 101 au cégep, donc elle n'est pas assez... elle n'est pas assez solide.
Bien, la loi 96, ça commence avec le statu quo de 2019, donc nos 20 000 francophones allophones dans le cégep anglais. Là, ils vont avoir un peu plus de français, mais ils vont rester dans un milieu fortement anglicisant.
Mm-hmm.
De plus, la loi 96 va empirer le problème de l'élitisation, c'est-à-dire que les cégeps anglophones ont tellement de demandes qu'ils sélectionnent les cotères les plus forts. Les cégeps anglophones sont en train de devenir des cégeps pour les étudiants les plus forts. On se retrouve avec un réseau collégial à deux vitesses.
Mm-hmm.
Et cet effet-là va être d'autant plus fort qu'il va y avoir énormément de demandes vers les cégeps anglophones et qu'on va permettre seulement un certain nombre d'être pris. Ben, ils vont prendre davantage les dossiers académiques les plus forts.
Alors, ce soir, vous allez débattre vraiment ou vous vous entendez tous? Parce qu'il va y avoir Marc Chevrier qui va être là, qui est professeur politologue à l'UQAM, puis Frédéric Lacroix aussi, qui vont tenir des discours qui vont pas mal dans le même sens. Il n'y aura pas vraiment de débat, je pense. Aïcha?
Ben, écoutez, oui, c'est une bonne question. On a décidé de poser un certain nombre de questions. Donc, quel rôle les cégeps peuvent jouer dans l'accès à la culture commune, à une langue commune, à l'ère du numérique?
Oui.
Est-ce que c'est une question enterrée, ça, la question de l'application de la loi 101 au cégep, ou si au contraire, c'est une question qui est toujours brûlante d'actualité?
Oui.
Les questions vont venir de la salle. On aura aussi des gens en ligne. Alors, il n'y a aucune question qui sera refusée. Tout le monde est bienvenu. Donc, même si vous partagez, vous n'êtes pas favorable à l'extension de la loi 101, vous pouvez venir poser des questions. Mais donc, on aura quatre panélistes qui vont aborder des enjeux, les enjeux de la langue du point de vue des cégeps, mais aussi, on va élargir un peu avec Frédéric Lacroix qui va nous parler de ses recherches récentes sur la situation, la roue qui tourne en faveur de Concordia plutôt qu'en faveur de l'UQAM.
Ah oui.
Pour différentes raisons, on va nous expliquer ça.
C'est tellement déprimant.
Oui. Marc Chevrier va nous parler du statut juridique et institutionnel du français au Québec, le statut réel, puis il va aussi lancer des pistes d'action. Donc, vous savez, le ministre Roberge, il veut consulter. Bien là, ce soir, on va avoir quatre intellectuels solides qui vont faire des propositions concrètes, puis on espère que le gouvernement va être à l'écoute.
Alors, c'est ce soir en bimodal, d'abord en personne à la maison Luger-Duvernay sur Sherbrooke-Ouest là, à Montréal, la maison de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais aussi sur Zoom. Alors, je vais essayer d'être à l'écoute. Sinon, on vous prendra en balado, je pense. Hein?
Oui, les soirées de débat des édito sont enregistrées et diffusées sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, mais surtout Facebook.
Merci beaucoup, Aïcha Van Doon.
Merci à vous, M. Robitaille.
Du Cégep de l'Assomption. Merci beaucoup, Georges-Rémy Fortin de Bois de Boulogne.
Merci.
Merci beaucoup, Marie-Lou Bouchard de Rosemont.
Merci, au revoir.
Bon débat ce soir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
On a de la suite dans les idées. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, en première partie, on a discuté avec des profs de cégep de tous ces rouleaux compresseurs de la culture que sont, pour la culture québécoise et la langue française, Netflix et les autres types de grosses plateformes là, comme Spotify. Notre monde numérique, quoi. Et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, on sait, veut s'y attaquer. On en parle avec Ruba Gazal. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Député de Mercier, de Québec solidaire et porte-parole en matière de culture, entre autres. Y croyez-vous, Ruba, qu'il est possible pour un ministre québécois de poser des gestes, comme il dit, pour être complémentaire à ce que va faire le gouvernement fédéral en matière de promotion de la culture québécoise sur ces satanées plateformes?
Oui, j'y crois. Non seulement j'y crois, mais je veux dire, on n'a pas le choix. Il y a de moins en moins de personnes qui sont abonnées au câble. Moi, ça fait très, très, très longtemps que je me suis désabonnée. Et de plus en plus de personnes, pas seulement les jeunes, là, même des moins jeunes, qui sont beaucoup sur les plateformes. Et en fait, moi, je suis agréablement surprise. Je suis contente que Mathieu Lacombe décide d'imposer, de légiférer sur les Netflix de ce monde, de pas seulement attendre ce que le fédéral fait. Parce que je me rappelle, j'avais même posé la question, puis Catherine Dorion, il y a 4 ans, en 2019, quand elle portait le dossier de la culture, avait demandé que Québec doit exiger du contenu québécois. Donc, le gouvernement du Québec, on doit exiger à Netflix d'avoir du contenu québécois parce que la façon que ça fonctionne, c'est que si on les laissait aller par eux-mêmes, comme c'est le cas maintenant, ben, c'est surtout du contenu américain là, qui est très, très, très populaire.
Oui.
Donc, quand on parle de notre culture, ben, c'est super important, oui, de soutenir nos artistes pour créer, puis on est très, très créatifs au Québec, mais c'est important qu'à l'autre bout de la ligne, ben, qu'il y ait des gens qui regardent nos productions.
C'est intéressant aussi qu'un ministre dise, on n'a peut-être pas toute la compétence en matière de culture. On l'a déjà eu hein, avant que la Cour suprême nous enlève ça, culture et communication, dans les années 80. Par contre, c'est des vieilles lois qui portent. Il y a un constitutionnaliste qui me disait, ça, et c'est Patrick Taillon à cette émission, il me disait, avant, on réglementait des tuyaux, mais là, maintenant, c'est plus des tuyaux culturels, c'est tout a changé. Donc, il y a une occasion pour le Québec de peut-être rapatrier une partie de sa culture, de sa compétence en matière de culture. Vous êtes d'accord?
Oui, oui. Ça aussi, Merci. Ben ça, par exemple, ça, je pense pas que M. Lacombe et la CAQ veulent aller aussi loin que ça. Nous, à Québec solidaire, je veux dire, c'est une demande historique du Québec, là, comme vous le dites, d'avoir culture et communication, que ça soit dans notre pouvoir exclusif au Québec, qu'on ait même un CRTC québécois, et parce que c'est le Canada qui légifère là-dessus.
Oui.
Puis ça, c'est une demande qu'on a. Il y a eu quand M. Lacombe a envoyé une lettre là, au Sénat pour dire qu'il faut consulter le Québec avant de prendre une décision là, mm-hmm. en matière de télédiffusion et tout ça. Ben il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité et nous, on avait proposé, je pense le Parti québécois aussi, de rapatrier tous les pouvoirs en matière de culture et de communication. Puis ça a été refusé par la CAQ. Donc, ils veulent pas aller jusque-là, de revenir à ce que ce soit une exclusivité, une compétence du Québec, exclusive du Québec avec un CRTC québécois. Mais ils disent, on a quand même, avec la Constitution, je peux batauger là-dedans puis trouver des pouvoirs pour... imposer du contenu québécois. Moi, je veux dire, on va le suivre. C'est sûr qu'on ne sera pas contre. Il faut
mais les rapports fédéraux, je pense au rapport Yale, puis aussi le qui date d'il y a quelques années déjà, puis aussi la loi C-13, elle fait comme si la culture, ça appartient exclusivement au fédéral.
Oui, alors, exact. En ce moment, c'est comme ça. Puis là, le Québec doit y envoyer une lettre au ministre du patrimoine pour lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous consulter? C'est pas très, très... Il n'y a pas beaucoup d'affirmations, là. Alors,
ouais.
Évidemment, je veux dire, le ministre le reconnaît, on a une spécificité que le gouvernement du Canada ne comprend pas. Et après ça, on va être oublié parce qu'on est quand même minoritaire au Canada. En attendant d'être indépendant, est-ce qu'on peut avoir une entente pour que la culture... qui est tellement différente. Je veux dire, le Canada, c'est un pays étranger quand on parle de culture, que ce soit de musique, de cinéma, d'artistes, de star system. C'est un pays étranger, le Canada, mm-hmm. en matière de culture. Donc, on doit nous-mêmes avoir tous les pouvoirs. Puis, comme je vous disais, d'avoir un CRTC qu'on appelle comme une commission de la culture et tout ça qui fait toute la réglementation, les décrets. C'est énorme, les décisions qui sont prises par le CRTC, puis que nous, on n'a pas grand mot à dire là-dessus, sauf un peu un pouvoir d'influence.
Donc, vous entendez que le Parti québécois là-dessus, il y a une convergence QS-PQ là-dessus?
Bon, si vous voulez, sur la culture, oui.
Rapatrier les pouvoirs en culture, créer un conseil de radio-diffusion et des télécommunications québécoises.
Oui.
Et le PQ proposait aux dernières élections bureau de promotion du contenu culturel québécois. Et vous êtes d'accord avec ça?
Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Là. Je ne me rappelle pas de cette proposition qu'ils ont fait. Mais nous, comme je vous dis, c'est comme... Nous, on appelle ça, pour le CRTC, c'est le Conseil des communications du Québec. Donc, c'est une société d'État qui va être responsable de toutes les discussions en matière de culture, là, de réglementer, de superviser les communications au Québec, qui serait en fait la même chose que le CRTC. Peut-être que c'était ça, le bureau là, du Parti québécois. Peut-être qu'on lui donne d'autres noms, mais c'est, moi, disons, pour faire simple, on va appeler ça le CRTC québécois.
OK. Vous continuez de rejeter l'idée d'appliquer la loi 101 au Cégep, ce qui pourrait favoriser une culture commune aussi à un âge où on consomme beaucoup, j'aime pas le mot consommer, là, mais beaucoup de culture sur les plateformes. Est-ce que ça aiderait pas, ça? La langue française puis la culture québécoise?
C'est-à-dire que la loi, comme là, si on va dans les sujets francophones, moi, j'étais à Bois-de-Boulogne, là, je suis sûre qu'aujourd'hui, à l'époque, je suis allée à une époque où il n'y avait pas de Netflix, on n'avait pas de cellulaire ni rien, dans les années 90, je ne me rajeunis pas. Et si je vais aujourd'hui au Cégep Bois-de-Boulogne entièrement francophone, moi, je suis convaincue que les jeunes, ils sont abonnés à des plateformes, ils ne sont pas en train de regarder tout.tv. Peut-être un peu de temps en temps, ils tombent par hasard là-dessus. Là. Ils sont sur Netflix, ils sont sur toutes sortes de
mais ce qu'ils vont apprendre à l'école, au moins, ce qu'ils vont apprendre à l'école, au moins, va être québécois, non?
Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que les jeunes francophones ou les jeunes immigrants comme moi, allophones ou même anglophones, qui sont aujourd'hui dans les cégeps, consomment de la culture américaine. Donc, la loi 101 au cégep ne va pas régler ça, ce qu'ils consomment. Puis, c'est juste 2 ans là, qu'on passe dans notre vie. Je pense pas que Il y a, je veux dire, tu rentres au cégep puis t'es obligé de, t'as pas le droit de regarder Netflix. C'est pas comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'il faut protéger notre langue, il faut protéger notre culture. Comme je disais, on est très, très, très créatifs au Québec. Mais en ce moment, là, les jeunes, de moins en moins, regardent du contenu québécois.
Ben oui.
On n'est pas concurrentiel.
58 % des jeunes Québécois de 18 à 34 ans consomment très peu, voire pas du tout, de contenu audiovisuel québécois sur les plateformes en ligne. 58!
Puis c'est très inquiétant, puis je le sais que ça s'en va, ce chiffre-là va monter de plus en plus, qui n'en consomment pas. Puis moi, je parle avec des gens du milieu culturel et tout ça, puis il y a deux façons de concurrence, c'est-à-dire de concurrencer les Netflix de ce monde.
Ouais.
C'est de légiférer. Les géants qui, eux, marchent par algorithme. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, quand ils regardent une émission, c'est pas parce qu'ils la cherchent. Ils sont sur une plateforme, puis là, tout d'un coup, il y a une émission qui leur apparaît, puis là, ils cliquent dessus par curiosité. Pourquoi? Parce que les algorithmes vont mettre de l'avant, qu'on appelle la découvrabilité, vont faire découvrir au public ce qui est le plus populaire. Mmh. C'est sûr que sur Netflix, pas les contenus québécois qui sont les plus populaires. Donc, les géants du web décident que les Québécois, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient au cégep, en français, en anglais, peu importe, qu'est-ce qu'ils regardent. Et une façon, donc, de contrer ça, c'est de légiférer qu'il y ait du contenu québécois, puis de faire une politique de découvrabilité, c'est-à-dire que ce qui saute aux yeux, là, parce que quand les gens ouvrent Netflix ou d'autres plateformes, ben, que ce soit des émissions québécoises qui apparaissent. Comme ça, ça va attiser leur curiosité, puis ils vont cliquer là-dessus. L'autre façon, c'est de concurrencer par une plateforme québécoise. Je vous lance une idée comme ça. Hier, je parlais avec des gens du milieu culturel qui m'ont dit Télé-Québec. Il y a personne qui dit, ah, tiens, je vais aller voir des émissions. Pas beaucoup. Les jeunes vont pas sur Télé-Québec. Ils ont une plateforme. Moi, je vais la regarder un peu de temps en temps. Il y a des émissions jeunes.
Oui.
Ça pourrait être vraiment notre diffuseur national dont on serait fier. C'est un outil extraordinaire pour promouvoir notre culture. Puis, je connais des gens qui travaillent dans des émissions pour jeunesse. Je veux dire, c'est du rafistolage. Ils ont peu d'argent. Les gens, quand ils voient des grosses productions américaines, anglo-saxonnes, c'est sûr que c'est moins attractif, nos émissions ici qu'on fait avec toute la créativité qu'on a. C'est beaucoup moins attractif. Donc, il y a quelque chose à faire là aussi avec Télé-Québec. De l'argent, mais aussi en faire un vrai diffuseur national et être ambitieux. C'est un outil qu'on utilise pas au Québec.
Parlons d'un autre sujet maintenant, la bataille des féminismes. Vous avez tweeté que Martine Biron était bien silencieuse sur le féminisme intersectoriel, le féminisme classique universaliste. Ce débat-là, expliquez-le-moi. Ça a mené même à une de vos anciennes candidates vedettes, Myriam Lapointe-Gagnon, qui a carrément fermé son compte parce qu'elle a dit à quelqu'un, là, je lis ça, là, que qui comprenait pas parce qu'il était un homme blanc cisgenre. Donc, comme homme blanc cisgenre, je vous pose la question, c'est quoi cette querelle-là? Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, moi, je tombe des nues. C'est une motion que j'ai déposée à l'Assemblée nationale avec le Parti québécois, avec le Parti libéral et aussi avec le collectif 8 mars. Parce que vous savez, le 8 mars, c'est la semaine prochaine et ça tombe une journée où on ne siège pas à l'Assemblée nationale. Donc, la dernière semaine qu'on siégeait, la semaine passée, le 21 février, je pense, j'ai déposé une motion. Et d'habitude, je veux dire, la motion du 8 mars ne fait pas débat. Je veux dire, on reconnaît qu'on a fait du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes et on sait qu'il y a d'autres chemins à faire puis on continue. C'est ça qu'on fait d'habitude. Et c'est une motion qui a été écrite conjointement avec le collectif 8 mars qui dit que ben, quand on fait des politiques publiques, quand on fait des lois, des décisions, c'est important de faire, écoutez bien ça, une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Et ça, ça fait consensus au Québec, mais là, je me rends compte pas pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est quand on a une mesure fiscale, admettons, une loi, ça n'a pas le même impact sur les personnes si elles font un homme ou une femme.
Mm-hmm.
Ça parle, et dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire c'est comme une intersection entre les différentes caractéristiques d'une personne. Par exemple, une personne qui est issue d'une minorité, des minorités culturelles, comme moi, je suis une poney au Québec, je suis une immigrante, là, je me considère de moins en moins immigrante, mais
ouais.
Si factuellement je le suis, même si factuellement je le suis. ou si on est une femme.
Vous n'êtes pas vraiment une immigrante, là?
Ben, moi, je me considère pas comme immigrante, mais factuellement, je le suis. Je veux dire, je suis arrivée dans un avion l'été 1987, 88, au Québec. Et j'ai eu le passeport et tout ça. Fait, donc, il y a une différence, par exemple, des politiques publiques si on est une femme ou un homme, si on est une femme issue d'une minorité, une femme immigrante, une femme vivant avec un handicap, une femme d'un certain âge, etc. Et il faut en tenir compte pour s'assurer que qu'on laisse pas tomber des personnes. C'est tout simplement ça. Il y a un consensus dans le mouvement féministe au Québec sur ça, d'en tenir compte. Et François David a écrit une lettre dans Le Devoir pour dire aussi...
Oui, mais Christiane Pelchat, une ancienne...
On en parle depuis 1995. Ouais.
Mais une ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchat, a écrit que c'est... Elle, de toute façon, est d'accord avec ça, l'analyse différenciée selon les sexes. Et puis, mais elle dit on peut rejeter l'idée de... Le mot intersectionnel, là, le féminisme intersectionnel.
Ben, en fait, là, parce que dans la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes de la CAQ déposée en 2022, donc c'est un gouvernement caquiste, c'est une stratégie de 5 ans là, qui va finir en 2027, le mot intersectionnel est présent 13 fois.
Okay.
Il est partout. Donc, est-ce que la CAQ est en train de rejeter ça, est-ce qu'elle est en train de désavouer la stratégie qui a été adoptée par sa prédécesseure, je pense que c'est Mme Isabelle Charest, l'année passée? Moi, je tombe des nues et j'aimerais entendre la ministre Martine Biron nous expliquer, elle aussi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis moi, je le fais vraiment avec le 8 mars. Et pour le 8 mars, c'est important parce que c'est la façon de prendre des décisions. On ne va pas laisser tomber des personnes.
Et c'était dans je vais essayer de la rejoindre. Elle est en Asie actuellement.
Oui, c'est ça. Elle parle du féminisme. Je ne sais pas quel féminisme, partout à travers le monde, ce serait bien qu'elle nous en parle au Québec.
C'est bien. Oui, récemment, elle s'exprimait ici à ce micro pour le combat des femmes iraniennes, notamment.
Oui, c'est vrai. Un combat important.
Je comprends.
Que je partage et sur lequel je suis très présente. Oui.
Merci beaucoup, Rubert Gazal.
Merci, ça fait plaisir.
Député de Mercier et porte-parole en matière de culture. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.